Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre énervé coup double. Chaque soir, on ouvre à 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. On reprend 22h minuit, mais à l'antenne cette fois, comme tout le monde. Ce soir, Philippe Jean est notre invité avec un nouveau roman qui sort vendredi prochain, Les Inéquitables, huis clos familial sanglant et un tour de force littéraire avec comme des plans-séquences qui glissent d'un personnage à l'autre. Ellipse, drogue, sexe, océan, dialogue dans le flot du récit, tout est fluide, c'est la très grande forme. Philippe Jean, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un dessinateur XXL, Jérôme Zonder, qui prépare son exposition de portraits surdimensionnés aux Beaux-Arts de Paris. Jérôme Zonder, c'est un trait virtuose qui ne fait pas non plus l'économie de la violence, le tout dans des formats qui nous dépassent. Jérôme Zonder, bonsoir.
Bonsoir.
L'algorithme ce soir, Marion Guilbeault.
Un algo parole et musique, un normal, puisque c'est celui de Philippe Jean.
Et dans le Énervé la suite, comédie à la française. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Benoît Lagane ?
Ben oui, au cinéma, en France, notre blockbuster à nous, c'est la comédie. Et à l'occasion d'un festival qui a pour nom un drôle de festival, au Forum des Images à Paris, quatre invités pour parler de la comédie à la française. Le réalisateur d'Erotissimo, vous savez, avec Jean-Yann, et aussi du premier taxi, c'est Gérard Pires, il sera là. La scénariste du Nom des gens et de la lutte des classes, Baya Kasmi, elle sera là. La stand-upeuse fan de réplique culte, Marine Boisson, elle sera là aussi. Et le critique du Cercle, Simon Rio, il sera là aussi.
Et vous aussi ?
Oui.
C'est la mauvaise nouvelle de
la
journée.
Ce sera de la comédie.
Générique.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Mais non, Benoît, ne partez pas, on n'est pas arrivé. Alors, tous les deux, Philippe Jean et Jérôme Zonder, on va le voir, vous avez la violence en commun. Vous vous connaissez l'un l'autre ?
Depuis 5 minutes, oui.
Depuis 5 minutes, avant même que j'arrive. C'était pour me dire que j'étais en retard. Ce qui est vrai.
Dans l'ascenseur en même temps. Donc,
Et à part ça ? Jérôme Zonder, vous connaissez un petit peu l'univers de Philippe Jean ?
Bah moi, je vais être super ringard parce que je vais parler 37-2.
Ah bah, c'est normal. Ouais.
On a oublié, on a tourné la page. Là. On est loin déjà.
Donc, ouais. Voilà.
C'est vrai que ça nous ennuie. Ça vous ennuie qu'on parle toujours, qu'on vous parle toujours de 37-2 le matin ?
On en parle rarement. Et là, il faut que je tombe sur une émission pour qu'on me dise 37-2.
Bah, tiens,
moi, je suis obligé de dire, mais c'est quoi déjà ? Non, je sais pas.
Voilà. Non, c'est vrai, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas entendre.
Je suis loin de ça. Je pense que même pour quelqu'un qui fait des dessins ou des choses comme ça, il a peut-être envie qu'on parle des dernières choses.
Ah, mais de toute façon, on va en parler.
Donc, oui. Mais donc, non, ça m'ennuie pas, mais bon.
Jérôme Zonder, il n'y a pas eu d'autres films depuis, pas eu d'autres livres. Allez, je continue avec vous. Le premier contact avec la violence, pour vous, c'est arrivé comment, Philippe Jean ? Pour qu'elle soit quand même au centre de ses romans depuis tant d'années.
Je sais pas, pour moi, la violence, elle est tout le temps là. Et simplement, elle n'est pas tout le temps visible. Il y a des choses très, très violentes qui se passent entre les gens qui gardent un masque imperturbable. Mais la violence, elle est là. Mais je suis pas spécialement attiré. Pour un écrivain, c'est souvent intéressant qu'il se passe un petit peu quelque chose. Mais c'est pas. Moi, je suis plutôt intéressé par la violence intérieure, en fait.
Pour autant, elle se manifeste de façon particulièrement. Explosive dans vos romans.
Mais c'est parce qu'à chaque fois, on me dit... Moi, j'ai tellement répété que ce qui m'intéressait, c'était plutôt la langue.
Ouais.
Alors après, on me dit, je dis, les histoires, ça m'intéresse que moyennement. Alors on me dit, mais non, il y a des histoires et tout ça, mais ça serait bien si elles étaient un peu plus... Alors, je rajoute un peu, j'en ramène un peu. Ouais, mais ça m'amuse en même temps. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des scènes de violence dans ce livre qui sont complètement passées à côté. Elles sont dans des ellipses.
Tout à fait.
Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose de violent.
On découvre des corps, mais on n'a pas assisté au meurtre, par exemple. Mais il ne faut pas trop en dire, parce que sinon,
on va dévoiler.
Par exemple, je ne vais pas donner le nom du personnage, parce qu'au bureau, ils n'avaient pas fini le livre. Donc j'ai dit, mais elle meurt à quel... Quoi ? Elle meurt ? Jérôme Zonder, et vous, le rapport avec la violence, ça a commencé par quel biais ?
Je pense que pour moi, c'est dans un rapport à l'histoire, enfin qui est très très important dans le travail de dessin que je fais, de portrait, enfin au sens où on est constitué d'histoire, on est travaillé par elle, c'est un peu la matière de à la fois des sujets et puis des personnages que j'essaie de mettre en place.
Et alors donc, quelle est votre histoire de la violence propre ?
C'est l'histoire du 20e siècle dont on hérite, mais l'histoire qui a précédé. Enfin, pour moi, ça commence vraiment avec l'espèce, et en particulier dans le dessin. Si on remonte comme ça à l'art pariétal, ouais. Les deux premières traces du dessin, il y a une empreinte et il y a une trace, il y a quelque chose qui est gravé dans la roche, quoi.
Donc c'est un geste de violence. En effet.
Il me semble, dès le premier geste.
Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce genre de choses.
Et qu'il y a une façon de dire notre présence au monde, quoi.
Vendredi prochain, sortie de votre nouveau roman Les Inéquitables chez Gallimard. On va y revenir, bien sûr. Vous vous souvenez de la parution du premier roman en 82, Bleu comme l'enfer? Dans quel état vous étiez? Le premier roman, quand même, c'est super.
C'était pas mon premier, en plus. Ouais, c'est le deuxième. Ouais. Les autres, c'était des nouvelles. Non, je me souviens pas bien. Mais c'est loin, hein.
Ouais, hein. Vous allez vérifiez que dans les librairies où vous êtes placé? Non, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas du tout ce genre qui allait placer.
Il y a des gens qui s'y intéressent pour moi. Donc, je pense que chez Gallimard, ils regardent de temps en temps. Mais... Enfin, moi, ça change pas ma vie. Une fois que le livre est fini, j'ai vraiment du mal à le garder en moi, c'est quelque chose qui est parti. J'ai tellement passé de temps avec, j'essaye d'être mon pire critique. Après, le public, ça marche pas. Je suis pas tellement intéressé par les chiffres, mais ça doit remonter à une époque.
Mais les chiffres sont plutôt bons, vous le savez.
Les mathématiques n'étaient pas trop montées.
Ouais, mais les chiffres sont plutôt bons généralement dans la publication. Vous avez fini un roman, il va paraître dans quelques jours. Vous êtes déjà sur l'écriture du prochain. Je vous demanderai pas de quoi il parle, mais vous êtes déjà. Ça veut dire que vous n'arrêtez pas, en fait.
Oui, mais je pense que c'est aussi une manière de me débarrasser de celui qui précède. Et comme je fais pas vraiment de différence, j'ai l'impression que c'est comme un train avec des wagons que j'accroche. Donc je peux pas dire je préfère celui-là ou l'autre. Non. Donc je suis sur un autre livre. Et je me souviens que j'avais, tout à l'heure on parlait de 37.2, c'était presque ce qui m'avait affolé parce que mon éditeur m'avait dit « Tu sais, si tu acceptes de vendre les droits au cinéma, ça va être énorme ce truc-là. » Parce qu'il pensait déjà que ça allait marcher. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit « Bon, ok, je m'en vais. » Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable pour moi. Je suis parti aux États-Unis. Ouais. Et c'était beaucoup plus agréable d'entendre une espèce d'écho. Comme ça, il y avait un mec là-bas qui avait un truc qui marchait un peu. Mais j'étais vraiment... éloigné de ça, et j'avais pas à supporter quelque chose qui, a priori, mais je pense qu'on aime ça, on aime la reconnaissance, ou on l'aime pas, c'est pas une qualité ni un défaut. Moi, la reconnaissance, pas trop.
Jérôme Zander, grosse exposition prévue dans quelques jours, ben non, il faut quand même attendre le 15 mai, prévue des portraits immenses aux Beaux-Arts. Vous en êtes où? Tout est fini?
Oui, tout est fini.
Tout est fini. Heureusement. Oui. Et le titre est arrêté?
Portrait minimal. Non, mais là j'ai mis l'accent sur le. Enfin, on a mis l'accent avec Emmanuel Brugerol, qui est la commissaire de l'exposition, sur le
travail de portrait.
Ouais, un truc tout simple. Et on est tombé d'accord sur cette proposition et ça s'est fait comme ça. Là,
portrait immense, c'est-à-dire quel les plus grands?
C'est 2 mètres à 1 mètre 50. Mais après, la taille des portraits, en tout cas en l'occurrence, pour ce travail qui est présenté, c'est très lié à la nécessité qui est dans la technique que j'utilise, en fait.
C'est quoi?
À la poudre. De graphite et de fusain, ouais. Et au doigt.
Et au doigt, c'est ça.
Dessiné, hein. Au doigt, donc je reviens dans les grottes comme ça. Et du coup, de ce fait-là, je suis obligé d'agrandir à une certaine échelle pour rentrer vraiment dans les détails, la matière du sujet, essayer de creuser ce truc, quoi.
Donc, vous intéressez un peu au dessin, ou en tout cas là? Moi, oui, je me souviens d'une exposition que j'avais vue à Biarritz.
Ouais. Mais en même temps, j'écoute avec attention ce qu'il est en train de dire, parce que je me dis, mais on est en train de faire, on fait la même chose, en fait. C'est des portraits, comme ça. Mmh. Et selon le besoin, il faut élargir une situation pour que le portrait passe d'un dessin plus petit à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais on fait la même chose. Lui, il travaille avec le doigt, moi aussi. Sur ma machine, comme je ne sais pas taper à la machine, moi aussi je travaille avec un doigt.
Un doigt? Vous tapez comme dans les commissariats?
Non, j'en ai deux, j'exagère, j'en ai deux. Deux doigts.
Vous êtes un flic de la littérature, vous tapez avec un doigt.
Ouais,
comme...
un petit peu, ouais.
Vous intéressez aussi à l'art, je me souviens donc d'une exposition.
Oui, mais moi j'ai des enfants qui sont là-dedans. Donc,
qui sont là-dedans?
Qui me guident et tout. J'ai une fille qui s'occupe d'une galerie à Paris.
Ouais.
J'ai une autre fille qui a un groupe et qui part un peu à droite, à gauche pour aller chanter. Et puis j'ai mon fils avec lequel on a mis au point un site internet, Walden, où c'est un espèce de déambulation dans une forêt numérique. Et mais le dessin, oui, mais pour des raisons aussi. On parlait tout à l'heure de quelque chose qu'on avait fait à Biarritz. Et c'était aussi pour une question de facilité. C'est beaucoup plus facile de faire venir des artistes de l'étranger ou quoi, avec des dessins roulés dans la poche, ouais, que de présenter des sculptures. Donc c'est ce qui a fait que c'était plus simple. Mais on a eu des gens bien, des gens comme David Bay, même des gens qui venaient de la bande dessinée.
David Bay, Guillaume Pinard, Stéphane Pancréas, je me souviens. Il y avait toute une génération qui était là autour
des Africains. Il y avait plein de gens.
Ça s'appelait Zoo Cryptage en 2017. Vous-même, vous savez dessiner?
Ah non, pas du tout. Non.
Rien?
Non. Je sais à peine écrire déjà.
Ah, bon, bien sûr.
Alors, voilà, ça, je l'attendais. Ça.
Alors, puisque vous savez à peine écrire, on va vous faire écouter des sons à chacun. Voilà. On vous a demandé des sons, Jérôme Zander, et vous avez choisi de la musique. Qu'est-ce qu'on entend et pour quelle raison, Jérôme Zander?
C'est Rimin and Stealing de Beastie Boys.
Ouais.
Et c'est la première cassette que j'ai achetée en, soit c'était en 85, ça sort en 84, je crois. Et c'est je sais pas comment dire, je suis tombé dessus par hasard et ça a été la première fois que je me suis dit que c'était ma musique, quoi. Où il y avait un truc d'évidence, j'avais jamais entendu ça. Et c'est du collage, enfin pour moi c'est l'hétérogène qui prend une forme. Et ça a été hyper important. Sans trop le savoir, mais en tout cas après, par la suite, voilà quoi.
Vous les avez dessinés?
Non.
Vous avez jamais dessiné la pochette?
Non.
On a reçu quelqu'un qui avait dessiné justement sa playlist, les Berberian, qui a dessiné comme ça toutes les playlists qu'il avait faites à l'époque sur des mini-disques. Vous, non, c'est pas
non,
ça.
Non.
On vous a trouvé un son pour vous, Philippe Jean. Un son de vent, d'abord parce qu'il y en a beaucoup dans le roman, on en parlera tout à l'heure, de ce climat que vous développez de roman en roman, d'ailleurs qui sont souvent très météorologiques, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi, et ou la violence psychique, il y a aussi la violence du climat. Mais je vous ai entendu à la radio, dans une autre émission sur cette chaîne, sur le fait que vous avez une chambre qui est traversée par du vent alors même qu'il n'y en a pas. C'est très étrange.
Je crois que c'est dans ma tête qu'il y a ce vent qui est tout le temps en train de souffler. Non, c'est vrai que j'aime bien les éléments parce que tout à l'heure on parlait de violence et pour moi la nature elle est hyper violente et c'est quelque chose qui m'angoisse et qui m'attire en même temps. Donc c'est très compliqué, vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous attire et qui vous repousse. Et ça c'est venu, je crois que c'est arrivé avec les États-Unis ça. D'avoir tout de suite, même on sort de New York et tout de suite c'est l'immensité. Et ça c'est... Je me souviens de balades dans la forêt. J'avais peur tout le temps, parce qu'il y a toujours des animaux qu'on ne trouve pas ici. Ici, on peut être mordu par une belette, mais là-bas, ça peut être beaucoup plus dangereux. Non, mais je trouve que le monde, il est violent, même quand on ne le voit pas. Le monde, il est violent, mais même dans l'amour est violent. Le silence est violent, et le vent aussi, toutes ces choses-là. Et c'est marrant que vous me parliez de ça, parce que Nelly Caprielian, l'autre femme, me disait...
Nelly Caprielian, donc, qui dirige la section livre aux Inoccupables.
Qui disait ce qui est bien avec Jean, on n'a pas besoin de regarder la météo parce qu'elle est à toutes les pages.
Exactement.
Et je m'en rendais pas compte.
Ah, mais vraiment.
Sauf que je suis incapable de décrire une situation si je sais pas quel temps il fait. Parce que la situation n'est pas la même s'il arrive quelque chose à vos personnages en plein été, ou sous une tempête. L'influence des éléments, elle est, même si on la conçoit pas d'une manière très très précise, elle nous habite tout le temps.
Et vous-même, quand vous écrivez, vous êtes plutôt un écrivain d'hiver, d'été?
Non, je suis de toutes les saisons. Moi, je suis de toutes les saisons, mais pas de tous les instants de la journée. Je suis très très mauvais d'ailleurs. Ça me traîne et j'essaye plus de m'en guérir, mais j'arrive pas à travailler l'après-midi, par exemple. Et à un moment, je m'étais dit tiens, c'est super, puisque l'après-midi je fais rien de bien, je vais pouvoir me promener, aller au cinéma, tout ça. Et puis ça marchait encore moins bien. Et je me suis aperçu que cette espèce de temps où on est mauvais, où on tourne en rond, où ça vient pas, est important pour que, éventuellement, vers 6-7 heures du soir, ça revienne. Donc je suis plutôt un écrivain qui travaille en fin d'après-midi, la nuit, mais dans la journée, je suis vraiment pas bon. Mais je peux pas non plus dire, tiens, je fais autre chose.
Jérôme Zander, vous avez aussi des périodes comme ça, de création dans la journée, des périodes où vous n'êtes, où les dessins, ça marche pas?
Alors non, parce que le temps du dessin, c'est un temps qui est très long. Et donc ça.
Le temps d'écriture aussi, hein.
Ouais, mais moi, en tout cas, je suis très très lent et j'ai besoin de travailler tout le temps. Quoi.
Tout le temps, toute la journée.
Ouais. Enfin, c'est un peu comme au bureau, quoi. Mais sinon, j'arrive pas à aller au bout de ce que j'ai besoin de faire. Enfin, donc des objectifs que je me fixe. Mais j'arrive pas non plus à. Le temps du travail, c'est aussi un temps de macération, de mastication du dessin, de sa matière. De tas d'essais, de choses qu'on jette, qui se font, qui se défont. Et ouais, il faut vraiment beaucoup de temps pour ça, quoi. Donc,
Encore une musique pour vous.
«
Marion Guilbeault le sait, c'est exactement tout ce que j'aime dans la chanson.
Mais moi aussi, j'adore ces chansons
atmosphériques. On entend Julie Cruz, ouais, qui a interprété nombre des ballades du compositeur
Badalamento.
C'est ça, notamment la série Twin Peaks, la musique c'était lui, ouais. Ouais. Et alors donc cette musique pour vous c'est
Ça a été hyper important, c'est parce que le Twin Peaks a été une espèce de, un peu comme Beastie Boys pour moi, une claque dans la tête. Et alors là j'étais plus déjà parti dans le travail, et au sens où ça me fait un peu penser ce que vous disiez sur le rapport à la nature, où finalement on a l'impression que vous êtes un espèce de sismographe.
Twin Peaks, c'est chaud, ouais.
Et moi, j'ai été très, pour revenir sur les histoires d'histoire dont je parlais au début, marqué et obsédé par la narration, quoi, dans un sujet. Et je trouve que Twin Peaks, ça m'a donné un peu ce truc-là. Aussi, toute cette musique, comment est-ce qu'on est traversé par des motifs narratifs, quoi, et qui deviennent des sensations, des émotions, et comment est-ce que ça fabrique un sujet, son corps, son rapport à sa matière, et comment ça se développe dans le temps, quoi.
Dans le temps et dans l'espace, parce qu'on verra tout à l'heure vos dessins, mais vos dessins sont immersifs, c'est-à-dire qu'ils sont tellement énormes, tellement immenses, que le spectateur n'est plus spectateur, d'ailleurs, il est non pas acteur, parce que ça veut rien dire, mais il est complètement partie prenante du dessin, de l'environnement que vous avez créé. Twin Peaks pour vous ? Vous voyez réagir
Pour moi, c'est le commencement de toutes les séries. C'est vraiment celle qui a été à la base de tout. Et c'est là où on a compris que justement les séries pouvaient devenir très très intéressantes. Avant les séries, c'était les machins qu'on voyait, c'était même pas des séries, quoi. Donc, Twin Peaks et après évidemment les Sopranos, Breaking Bad et tous ces trucs-là.
Et la série que vous avez écrite d'ailleurs
C'est absurde parce que c'est une série qui a été faite éventuellement pour. Qu'elle soit tournée quelque part.
Ouais.
Mais en même temps, comme je suis écrivain, je me disais bon, je fais une série parce qu'en ce moment tout le monde regarde des séries. Mais donc ça aurait été marrant que d'autres écrivains en fassent aussi et que cette série-là soit tournée.
Et pourquoi elle n'a pas été tournée ?
J'en sais rien.
On vous l'a pas demandé. Alors qu'on a.
Si, ça vient, mais des fois, quand je suis pas intéressé, moi, je fais la sourde oreille. Déjà que j'ai qu'une oreille, donc c'est facile. Pour moi.
Vous bouchez l'autre.
Ben voilà.
Très bien. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui connaît parfaitement le climat et notamment la couleur des nuits. 6 albums, 3 romans, un jeu de guitare et une voix unique. De quoi passer des nuits bleues avec Bertrand Belin.
Elle est partie. C'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Ouste chacun. Ouste chacun. La vérité nue, la vie crue, les nuits. Le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague âme, Oust-Chouka. Un vague âme, Faust Schuka. Faust Schuka.
Rendez-vous.
Laurent Goumard.
Elle me dit j'aimerais bien te revoir assez vite. Elle me dit j'aimerais bien te revoir bientôt.
Allongée contre moi, elle caresse ma poitrine et les nuages défilent.
Le nouveau rendez-vous.
Et s'étire dans l'air chaud.
Sur France Inter.
Elle me dit, et demain, pourquoi pas, je suis libre.
Mais oui, c'est vous qu'on entend, Philippe Jean, en duo.
Là aussi, on m'a obligé.
On vous oblige toujours.
Le revolver sur la tempe.
Et vous faites, en fait, on vous force.
Ouais, quand c'est des gens que j'aime, je fais des trucs avec eux.
Ouais, un duo avec Stéphane
Lachère. Avec lui, donc...
Ah ouais. Et vous montiez sur scène.
Ah oui. Enfin, pas longtemps, hein, ça a duré 3 semaines. Mais pas...
Et vous aimiez ça. Les tournées, vous aimiez ça, avec Stéphane Lachère.
Ah ben c'était un truc, pour un écrivain, le faire participer à faire de la scène.
Ouais.
Là, quand on commence à sentir ce que c'est que le public, vraiment. Moi, le public, je ne sais pas trop. Avec les livres sur scène, c'est tout de suite, quoi. Et puis de sentir qu'il était très angoissé, alors que moi, pas du tout. Parce que moi, je veux dire, même si je chantais faux, personne ne venait me dire « ça va pas, je ne suis pas mon truc ». Donc non, c'était super intéressant. Mais c'était tout, c'était toute l'ambiance qui était bien.
Ah, il y a peu de romanciers comme ça qui montent sur scène. Il y avait eu Michel Houellebecq. Qui avait eu son tour de chant avec Burgala.
Oui, il y en a beaucoup qui ont fait
des trucs. En fait, il y en a d'autres, oui. Ah oui, il y a même, comment elle s'appelle
bah, Modiano, il a fait des paroles.
Modiano,
aussi.
Bah oui, oui tenez-moi oui. Benoît pour. Ouais, oui, mais en fait, il n'est jamais monté sur scène.
Non, bah non.
Ouais.
Il n'a pas osé, mais c'était.
Virginie Despentes, elle est sur scène aussi.
Oui. Non, il y a des trucs bien.
Vous vous sentiez une âme rock quand vous étiez sur scène avec Stéphane Escher?
Non.
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 Non. Bon. Donc ça, c'était c'était en 2012, hein, ce qu'on vient d'entendre. Je sais que vous signez toujours les paroles, on a vérifié. On a eu l'album ici, bien sûr, de Stéphane Escher qui est paru il n'y a pas si longtemps. You, 7 titres, vous les signez, dont Étrange, d'ailleurs, qui est rentré en playlist sur France Inter. Vous lui réservez vos textes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous demandent? Il y avait eu Johnny Hallyday, on se souvient, il y a quelques temps. Mais
bah, même Johnny Hallyday, il m'a rien demandé, Johnny Hallyday.
Ah, il vous a rien demandé?
Non, mais moi, je ne fais pas des trucs comme ça. J'ai écrit des textes qu'il voulait chanter. Donc je fais des textes pour Stéphane, parce que c'est devenu plus qu'un ami même.
Ouais.
Et c'est lui qui m'a téléphoné un jour en disant « il y a le Johnny qui veut absolument t'aller ». Je dis « bah oui, si tu veux, mais j'ai pas écrit un truc pour Johnny Hallyday, parce que là on n'a pas le temps, mais si je vous racontais le clip que Johnny Hallyday a fait avec les paroles que je lui avais faites, c'est à se rouler par terre. Quoi.
C'est-à-dire...
Mais comme il y a tellement de fans de Johnny, j'ose pas aller plus loin, mais quand même c'était assez étonnant.
Étonnant dans quel sens?
Bah, c'était un truc très... genre, si tu refais la même chose, c'est pas la peine, on ne revient pas, ne reviens pas.
Ouais.
Et là, le truc commence, et c'est dans une soucoupe volante, ou je sais pas quoi, et ils se battent avec des lasers, machin, et il étrangle une espèce de robot femme et tout. J'ai dit, ah bah ouais, j'avais pas compris que j'avais cru ça. Mais bon.
C'est ça, les miracles de l'adaptation. Ah oui, complètement décalé. Alors, un nouveau roman aujourd'hui, Les Inéquitables, ça va paraître vendredi prochain chez Gallimard, plein de bruit et de fureur. C'est autour d'un clan familial. On y croise d'abord Diana, 50 ans, dentiste, veuve, depuis un an exactement. Très belle, très très belle femme. Son mari Patrick a été tué lors d'un massacre. La scène a été filmée, vue et revue. Les douilles certifiées provenant du massacre sont vendues sur eBay. Et elle vit dans une sorte de colocation avec Marc, le frère de son mari. Oui, je vous laisse commenter l'histoire des douilles sur eBay, c'est ça?
Si j'ai inventé ça?
Non, je pense pas.
Ah si, j'ai inventé, j'invente tout, moi.
Bon, ouais, je ne suis pas sûr.
Mais c'est possible, hein, mais j'imagine que c'est possible.
Ouais, manifestement, c'est possible, il y a du fétichisme pour tout. Donc, Diana vit dans une sorte de colocation avec Marc, le frère de son mari, qui refuse de la laisser seule car elle a fait plusieurs fois des tentatives de suicide. Et elle va peut-être recommencer. Le livre commence, Marc donc trouve sur la plage 3 paquets de drogue qu'il va chercher à revendre. Il contacte alors Joël, là on dirait presque une série, hein, quand je dis ça, tous les noms qui se précipitent, ça va s'arrêter.
J'espère qu'il y a des producteurs contents.
Oui, parce qu'il y a plein de personnages. Et en plus, facile à tourner, ça se passe au bord de la mer. Bon, il contacte Joël, le frère de Diana, alors même que ça se passe pas très bien entre eux. Et puis, il y a Brigitte, mais pour combien de temps? Bref, je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais tout raconter, je vais tout balancer, je vous préviens. Le livre est formidable et il commence avec cette phrase, et j'adore quand ça commence comme ça. Mais il voulait qu'elle enlève ses mains, qu'elle cesse de le toucher, qu'elle s'écarte, disparaisse. Il essayait de lui dire de ficher le camp, de rentrer, mais il avait la bouche pleine de sang et elle refusait de le lâcher. Bon, c'est vrai, quand on commence comme ça tout de suite, on a envie de poursuivre. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de commencer par « mais ».
Ah, ben voilà quelqu'un de très fin, d'intelligent,
ah,
de
je
sensible.
Je savais que ça vous plairait, ça.
Mais oui, non, moi j'aime bien ça. Ouais. Et je vais même vous dire un truc, c'est que normalement, dans la version originale, ça commence par un M minuscule.
Comme si vraiment il y avait eu...
Comme s'il y avait un bout de phrase
un
qui
bout
manquait
de phrase
et
auparavant.
On le prend au moment où ça devient intéressant. Mais mes romans ressemblent à ça, des fois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant, ça commence et après... Parce que pour moi, dans les histoires, il y a jamais de début ni de fin. Je veux dire, tout, on peut toujours prendre Roméo et Juliette avant, quand ils étaient petits, et on peut le prendre après, une fois que ça va mal. Enfin, il n'y a jamais de fin. Ça se termine jamais.
Donc, il n'y a pas de début véritablement.
Non, non.
Bah alors, pourquoi avoir renoncé à ce mais minuscule?
Parce que chez Gallimard, ben moi, ben attendez, ils m'ont forcé. De la même manière.
Philippe
que pour...
Dian, l'homme qu'on force.
De la même manière que pour O. Ouais. Ça a été hyper compliqué, parce que je leur avais dit, je ne veux pas de guillemets, vous savez, comme ces espèces de chevrons un peu sur les côtés. Parce que c'était quelque chose que disait là une femme. Et je disais, c'est beaucoup plus élégant et beaucoup plus fin si on met à l'anglaise les petits trucs en haut. Mais ça a été des discussions dans les bureaux, parce qu'il n'y a qu'une police pour la Blanche de Gallimard, et que, à part les chevrons, il n'y avait rien. Donc faut se battre. Alors là, je me suis battu et essoufflé et sans force à la fin quand ils m'ont parlé du M. J'ai dit ben bon, ça va, je ne parle plus.
C'est quand même fou. Mais vous n'arrivez pas à imposer quand même cela.
Si,
vous,
mais c'est beaucoup de bagarres ou d'embêtement. J'ai pas envie de les embêter, les gens. Moi, je veux dire, mon roman, je l'ai écrit pour moi. Je l'ai écrit. J'ai été mon critique le plus dur, j'espère. Et une fois que j'ai décidé qu'il fallait mettre une minuscule. Ben, les inéquitables aussi, hein. Normalement, il y a une majuscule à inéquitable.
Oui.
Mais là, on peut pas l'avoir. Donc, je vais pas, qu'est-ce que je vais faire.
Si vous avez gagné sur la minuscule inéquitable, en effet.
Sur mon manuscrit, il y a une majuscule. Et il y a une minuscule pour le M. Ben voilà. Mais il faut garder ses forces, surtout dans ce monde de violence dont on parle, il faut garder un peu de force pour les choses importantes.
Alors ce qui est vraiment très beau, au-delà même de l'histoire, hein, parce qu'on ne peut pas tout raconter, parce que sinon on spoil véritablement, c'est que c'est vraiment un roman virtuose. Moi j'ai été épaté à la lecture par des scènes où l'on glisse d'une scène avec un personnage qui en rencontre une autre, et alors vous continuez avec lui. Je sais pas, c'est vraiment ce qu'on appelle les plans séquences, par exemple, chez Brian De Palma, où on est dans un hôtel, on suit un personnage, on en rencontre un autre qui nous... Et je me suis dit que véritablement, il y avait dans votre travail, un travail mais de styliste et de virtuose, au niveau de la fluidité. Dans le fait, par exemple, aussi, que vous avez supprimé au niveau des dialogues tous les tirets, tous les dit-elle, raconte-t-il, lui rétorqua-t-elle. C'est fait que les dialogues, pareil, sont dans le flot du récit.
Mais ça, il faut agencer le truc pour pas que ça soit confus ou quoi. Donc,
ah bah oui, c'est ça.
Cette fluidité,
pas perdre le lecteur.
Voilà, exactement. Bah, de la même manière, pourquoi j'ai supprimé aussi, j'en fais pas non plus un truc de gloire, mais pourquoi un point d'interrogation après où est-il? Pour moi, je trouve ça stupide. Et la littérature ne doit pas se servir de typographie. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de si votre personnage ne parle pas en italique, ça ne va pas marcher. C'est que vous avez un problème. Et pourquoi démarrer un paragraphe avec un petit blanc? C'est très bourgeois, ça, je trouve. On met un petit blanc. Tout juste si on ne va pas faire une première lettre et puis faire une enluminure autour, je ne sais pas. Les tirets, les points d'exclamation.
Rien dedans, ouais.
Bah, oui, non, mais je
que
fais pas
lettres.
Ça pour embêter les gens. Moi, je fais ça parce que je trouve que la fluidité, c'est certainement ce que je recherche. Parce que le monde dans lequel je vis, je sais pas, c'est parce que j'écoute beaucoup de musique et que je regarde beaucoup de choses et que j'ai l'impression que le monde dans lequel je vis ressemble à une mélodie un petit peu. Et il faut la tenir, cette mélodie-là. Et elle est pas forcément avec des coupures, des machins. Non.
Ouais.
Et il y a des gens, de très bons écrivains aujourd'hui, par exemple, qui font des notes en bas de page. C'est devenu à la mode. C'est des notes de bas de page qui peuvent faire 2 pages, 3 pages, des choses comme ça.
Et alors vous en pensez quoi de ça?
Bah, j'en pense rien, sauf que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi mes romans sont de plus en plus petits? Parce que aussi, par rapport à ça vient d'un truc avec la peinture. Je suis très sensible aux gens qui font des dessins, des portraits, des choses comme ça. Et j'ai une grande passion pour Bram Van Velde, par exemple. Mais il y en a d'autres qui ont fait ça, mais qui a commencé comme un peintre figuratif abstrait, qui a commencé avec des trucs, et qui, à la fin, ne travaillait plus qu'avec vaguement ses initiales et puis 2 ou 3 couleurs. Et j'étais, et je suis vraiment subjugué quand je vois ça. Je veux dire, arriver à une telle concentration de ce qu'on a envie d'exprimer, c'est génial. Donc plus les romans sont petits, je trouve, de toute façon, il faut pas juger un roman à l'épaisseur. C'est... Mais plus on arrive à réduire, pourquoi il y a plein d'ellipses?
D'ellipses, ouais.
Parce que je trouve que, par exemple, s'il y a une bagarre à un moment, j'ai pas envie de la raconter, ça m'intéresse pas. Mais avant, ça m'intéresse, quand ça monte. Et après, qu'est-ce qui se passe? La dernière scène d'amour, par exemple, on peut en parler, parce que moi, spoilier, c'est pas un problème.
Bon, alors allez-y.
Non, mais voilà, on attend que les deux personnages principaux finissent par coucher ensemble. Et c'est vraiment, on attend, parce que l'autre, il a des problèmes. Donc, et au moment où ça arrive, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais parler de la scène d'amour du soir où ils se retrouvent? Non, je vais prendre l'autre le lendemain matin. Pour pas qu'ils aient à dire, oh là là, ah que c'est bon, ah que c'est beau, ah nana. Non, ils l'ont déjà fait, c'est passé, et là, elle, simplement, elle se retourne vers lui, elle lui sourit. Je trouve que c'est plus fort, moi. Mais ça, c'est mon propre... Moi, je trouve ça. Je suis pas sûr que tout le monde le trouve de la même manière. Mais...
Il y a aussi quelque chose que l'on retrouve dans pas mal de vos romans, ce sont les frères. Ici, donc, pas mal de frères, hein, Marc et Patrick. Diana a un frère, Joël. Ça raconte quoi de vous? Est-ce qu'il y a eu des frères comme ça qui ont compté? Pas forcément d'ailleurs des frères au sens familial du terme dans votre parcours.
Bah, je suis toujours intéressé par feignantisme, peut-être un peu, par le premier cercle. C'est plus simple pour moi de parler des gens qui ont des rapports autres que des rapports financiers ou des rapports sexuels ou des rapports comme ça. La fraternité, les frères, les sœurs, c'est hyper particulier quand même. Comme le papa et la maman aussi, c'est toujours c'est des personnages qui m'intéressent parce que c'est tout à fait absurde de penser qu'on peut faire un portrait total d'une personne. Donc des fois, ça aide un petit peu de savoir que bah, là, dans ce livre, justement, le frère a violé sa sœur au début. Donc c'est le gros problème.
Mon Dieu, ils vont me tuer au bureau. Mais... ils vont me tuer.
C'est pas vrai, en plus.
Bien sûr, comme Brigitte, elle n'est pas morte.
Oui, je mélange. Non, je trouve que ça complexifie les rapports, quand même. Et ça les rend peut-être plus compréhensibles. Moi, je comprends que le même sang, ça veut dire quelque chose. On a vécu quelque chose et à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui est la même, qu'on partage. Donc, tout devient plus compliqué et plus intéressant pour moi.
Vos frères sont dans l'art ou font tout autre chose que vous?
Mes frères dans l'art.
Non. Vos frères, vous avez des frères?
Ils sont morts.
Ah, ils sont morts,
oui,
je ne savais pas.
Oui, mais bon, oui. Mais sinon des frères, oui, ben j'en ai plein, je veux dire, des écrivains frères, des faux frères. Mais des vrais frères, j'en ai des kilos, donc je pense que le temps tourne. Mais en musique aussi. Je suis de plus en plus à la recherche de musique, je suis désolé, mais qu'on n'entend pas à la radio, parce que c'est souvent des morceaux qui durent 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, et on ne les passe plus à la radio.
Vous écoutez qui alors?
Ben, je pense à un type en ce moment, je suis complètement à genoux devant lui, qui s'appelle Marc Kotselek, qui a aussi un groupe qui s'appelle Sun Kill Moon. C'est d'une beauté à tomber par terre, ce qu'il fait, je trouve que c'est... Puis ça se rapproche du roman, il raconte des histoires. Puis quand j'étais plus jeune, je me souviens de journalistes qui venaient me voir en me disant « Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire quand vous écrivez un bouquin ?» Et moi, tout naïf, et je leur avais dit « Je sais pas, si j'arrivais demain à écrire un roman qui ressemble à une chanson de Lou Reed, je serais heureux. » Et les types me regardaient avec des yeux ronds en disant qu'il y a un imbécile, il confond une pauvre chanson avec un roman, avec la littérature. Mais non, parce que si on commence à ramener ce qu'il raconte, la voix, le rythme, tout ça, c'était, pour moi, une chanson de Lou Reed, c'est pas un petit machin qui dure 3 minutes. C'est un monde. Et ce type, la Marc Kotselek, il y en a d'autres, par exemple, des gens qui sont partis du classique, par exemple, et qui ont essayé de mélanger le classique avec la musique moderne, pour voir s'il y avait des trucs. Et il y a un groupe qui s'appelle, par exemple, Penguin Café, c'est à tomber par terre tellement c'est beau. Ou un type qui s'appelle Nils Fram aussi, qui fait des musiques, qui s'est fait construire un piano de 5-6 mètres de haut, que le type qui a construit le piano, il a été obligé de se barrer en Hongrie pour pouvoir les faire, parce que les cordes, il fallait les couler. Enfin, et c'est des musiques, c'est des musiciens incroyables. Mais qui, je trouve, et ça, j'essaye dans mon travail de mélanger un peu... Je viens pas de rien. Je viens la langue, c'est quelque chose de classique, on peut remonter très loin en arrière, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais il faut voir comment elle se débrouille, ce classicisme, comment il se débrouille avec la modernité. Comment on mélange? Comment on retrouve ça?
Eh bien, on vérifie tout ça dans Les Inéquitables chez Gallimard à paraître vendredi. Vous restez avec nous. Philippe Dian ce soir est programmateur sur France Inter. C'est ce que l'on vient de vérifier tout de suite. On va faire son algorithme avec Marion Guilbeault.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Marion?
Vous avez rendez-vous?
On peut avoir de la musique ?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits, Phil Collins, Skate Jared.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart ?
Oui.
C'est lequel ?
Le dernier.
Sur France Inter.
Et en fait, je crois que vous auriez pu presque spoiler ce que va dire Marion Guilbeault. Marion, l'algorithme.
Alors, votre ADN musical, Philippe Jean, qui se dévoile par le texte, parce que bien sûr, c'est impossible de pas mentionner les chansons que vous avez écrites, celles pour Stéphane Escher, bien sûr, mais aussi pour le Notre-Dame de la chanson française.
Si c'est pour me proposer pire, on n'en revient pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens, reviens pas. Si tu n'as
On en a parlé tout à l'heure, Johnny Hallyday, Ne reviens pas, une musique signée Stéphane Escher, c'est sur l'album À la vie, à la mort. Johnny Hallyday, je crois que c'est aussi votre premier concert.
Mon premier ?
Concert, c'est possible ?
Ah oui, c'est possible. Je me souviens même que c'était pas la première partie. La première partie, c'était Henri Salvador. Je me rappelle, mais j'étais un gamin, donc je vais voir Henri Salvador, je ne savais pas trop qui c'était. Et d'un seul coup, je vais arriver dans la deuxième partie, un espèce de type qui commence à se rouler par terre et tout. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais. Et c'était un des premiers concerts de Johnny. Ouais.
Et c'était où ?
Je crois que c'était à l'Alhambra.
À l'Alhambra. Donc
ouais,
à...
Mais ça se perd dans la nuit des temps. Quoi.
Bien sûr.
Vous qui écrivez beaucoup de chansons, enfin, en tout cas pour Stéphane Escher, vous aimez quel genre d'écriture en chanson française ? Qu'est-ce qui vous touche ?
Je ne connais pas bien la chanson française actuelle. Sauf que tout à l'heure, on a écouté un truc et j'entendais Bertrand Belin. Et oui, parce que ça m'a fait penser tout de suite à Bachung, avec Alain Bachung. J'ai failli même... On avait commencé à travailler ensemble.
À collaborer, oui.
Entre-temps... Non, il y a des gens que j'adore et qui sont... Mais moi, je suis un enfant de Léo Ferré aussi. Je me rappelle d'après-midi entier, rouler sur mon tapis, écouter Léo Ferré. Je me souviens même de professeurs de français qui me disaient « Ah bon, à ton âge, tu connais les poètes de 7 ans, tu connais tout ça ?» Je dis « Oui, mais c'est parce que j'entendais ça, Léo Ferré chantait ça. »
Alors, on connaît votre talent de parolier, les pages de vos romans sont truffées de références musicales plus pointues les unes que les autres, mais votre idole absolue, vous nous l'avez spoilé tout à l'heure, c'est un jeune musicien allemand, surdoué, qui avance dans les pas de Steve Reich, de John Cage, en mariant lui aussi classique et électronique, avec une approche très très personnelle des claviers et en développant des climats hypnotiques. Donc de Nils Fram qui développe comme ça ce hall melody. Vous l'avez découvert comment, vous l'écrivain, vous le parolier qui choisissez une musique sans parole?
Je suis souvent sur internet quand même, j'écoute plein de choses, j'essaie de regarder qu'est-ce que j'ai envie. Vous savez, quand on écrit un nouveau livre, c'est comme une nouvelle vie qui commence un peu. Trouver le son qui va avec. Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter quand j'écris Les Inéquitables ? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre ? Et je suis assez sensible aux gens qui font des recherches, qui cherchent des choses. Et en même temps, ce que je vous disais aussi, cette idée que j'aime bien que les gens comprennent qu'ils ne viennent pas de rien. C'est-à-dire que c'est comme dans l'art abstrait, hein, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire n'importe quoi, puis il y en avait d'autres qui venaient parce qu'ils avaient quelque chose à raconter avec une nouvelle forme d'expression. C'est pour ça que c'est compliqué. Même j'aime bien la musique expérimentale aussi. Il y a la musique expérimentale de type qui arrive, ils appuient sur une note, puis après ils vont fumer une cigarette pendant que ça continue à tourner. Ça rime à rien. Donc c'est assez compliqué. C'est pas comme écouter une chanson, un truc. C'est plus compliqué. Mais quand on trouve, moi c'est des univers entiers. Nils Fram, là il a pas fait qu'un album, il en a fait plusieurs. Et c'est pareil, j'ai envie de tout écouter dans la journée, quoi.
De tout écouter. Alors dans votre ADN musical, on trouve aussi la Sainte Trinité, Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Reed, bien sûr, de l'Americana, le groupe Sun Kill Moon avec Marc Kozelek, du rap pour la scansion, le rythme qui est aussi très présent dans votre écriture, la violoniste, Hilary Hahn. À l'âge où beaucoup préfèrent dire que c'était mieux avant, vous gardez vraiment une curiosité intacte pour la musique, pour la découverte. Alors je vous propose dans cet algorithme d'écouter une jeune américaine. Elle a accompagné de nombreuses musiciennes comme Laura Gibson, Sharon Van Etten, des figures en vue du rock indépendant. Son magnifique troisième album a été inspiré par le poète Thomas Moore et il a été composé sur la côte de l'Oregon, donc un très très beau décor sauvage, entre forêts de pins gigantesques et plages désertiques, la puissance de la nature à l'état pur, un disque imaginé lui aussi autour du piano et enrichi de boucles, c'est beau comme du bois flotté.
C'est...
Elle s'appelle Heather Woods Broderick, Where I Lay. C'est contemplatif, c'est passionné. Cet extrait de Invitation, son troisième album qui sort vendredi chez Différentes. Alors, Philippe Dian, est-ce que vous sentez la puissance du climat de l'Oregon quand vous écoutez cette chanson?
Oui, mais ça m'a rappelé quelque chose. Il y a aussi une jeune prodige de 3 ans, violoniste américaine, qui maintenant tourne dans le monde entier. Elle a décidé avec un autre, un Allemand qui s'appelle Oshka.
Oui, Hilarion.
Voilà, c'est
ouais.
Hilarion.
Ouais, ouais.
Mais quel rapport avec ça, Hilarion?
Aucun rapport.
Ah bon, d'accord. Bah,
non,
donc
non.
Hilarion, ils se sont barrés tous les deux en Islande et il y a cette violoniste hyper classique qui se met avec un type qui fait des pianos préparés avec des bouts de machin et ça fait des... Et ils se mettent ensemble, c'est juste au moment où le volcan saute. Donc ils restent coincés et c'est le truc des plaques tectoniques. Il y en a un, c'est le côté oriental, côté occidental et ça fait des espèces de trucs d'improvisation.
Et ça a marché, une fois de plus. Merci Marion. On se retrouve quand Marion, la prochaine fois?
Ah
bah jeudi, je crois.
Pas, jeudi
avec JJ Johnson.
I feel your love. I feel time is up. When I was a child. A transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside an old. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone.
Néo-zélandaise Aldous Harding dans le NRV. Elle sera en concert à la Maroquinerie à Paris le 25 mai prochain.
The New Rendez-Vous. No. The New Rendez-Vous.
Et 10 jours auparavant, le 15 mai exactement, ce sera le vernissage de l'exposition aux Beaux-Arts à Paris avec vous, Jérôme Zonder. En avant-première, on parle ce soir de cette exposition portrait, des portraits surdimensionnés en noir et blanc, des proches, des amis, des personnalités aussi, comme Laurent Lebon, l'actuel directeur du musée Picasso. Signe particulier, toujours chez vous, des dessins absolument immenses, plus de 2 mètres parfois, j'en ai même vu des plus grands. Vous nous rappelez par exemple ce que vous aviez créé pour la Maison Rouge. L'exposition s'appelait Fatoum en 2015 et c'est ça qui vous a révélé au grand public, Jérôme Zonder.
Oui, pour l'exposition Fatoum, c'était en fait un grand dessin immersif de, je sais plus, je crois que c'était 700 mètres carrés, je me rappelle plus bien. Donc c'est toute une déambulation, comme une espèce de ligne qui nous conduisait du début de l'histoire que je racontais dans l'exposition jusqu'à la fin, comme le suivre un peu son destin, quoi, Fatoum.
7000 mètres carrés de dessin. Ouais.
Ouais, on pourrait, ouais, enfin, non, quoi. 700.
700 mètres carrés.
7000, ouais,
c'est 7000, ce sera la prochaine fois. Non, 700 non, mètres carrés.
C'est la prochaine,
c'est la prochaine fois. Bon, de toute façon, rien ne l'arrête. Vous allez voir, rien ne l'arrête. Ouais. L'histoire, ça racontait quoi?
L'histoire, c'était Alors, quand j'ai commencé à travailler le dessin, j'ai mis en place trois personnages fictifs qui sont des occasions d'expérience de dessin. Et j'avais choisi de les faire naître en 2000 et de les faire grandir année après année comme des vrais personnages, un peu comme une espèce d'allégorie du siècle. Donc, l'histoire en 2015, c'était la réunion de tout le travail sur l'enfance jusqu'à l'adolescence, 15 ans. Et c'était comme ça des situations que traversaient ces trois personnages et qui étaient en même temps pour moi une façon de justement mettre en scène le rapport aux histoires dont je parlais au tout début, quoi.
Alors, juste une question par rapport aux personnages que vous mettiez en scène. Il y avait pas mal d'enfants que vous dessiniez dans des ouais. situations très violentes, des scènes de meurtre, d'agression, parfois même, on va dire, sexuelle. Vous dessiniez avec des modèles vivants. Qu'est-ce que vous leur faisiez faire pour arriver à ce type de dessin ?
Alors, c'était des scènes de simulation de choses, de meurtres, etc. C'était tout le temps des espèces de une série qui s'appelle Jeux d'enfants, en fait, et qui était pour moi, quand je parlais d'allégorie du siècle, une façon de faire écho à la violence dont on parlait aussi tout à l'heure, et dans lequel le siècle, à mon avis, a démarré, quoi, et dont il hérite aussi. Et donc, c'était un peu comme si les enfants... qui étaient ces personnages recevant les informations à travers tous les canaux dans lesquels on est pris maintenant, essayer de rejouer cette situation, alors de façon assez grotesque, mais comme un peu naïvement pour en éprouver les sensations, les peurs, etc., etc. quoi.
Vous n'avez jamais été censuré dans les expositions que vous avez menées par rapport à ce type de dessin extrêmement violent ?
Non, directement, non, non, non.
Indirectement alors ?
Indirectement.
Vous-même autocensure ?
Joker.
Vous-même, vous êtes autocensuré. Ah ouais, indirectement, Joker. Donc, ouais.
Non, mais
ouais.
Moi, je m'autocensure pas, mais parce que je pense que le travail, ça se situe, enfin, ailleurs, quoi, en dehors de ces registres-là. Ouais. Donc, c'est suivre le dessin qui m'intéresse.
Fusain, mine de plomb, le travail au doigt aussi. Il y a plein de sources d'inspiration. Vous avez choisi le dessin plutôt que la peinture. C'était facile quand vous étiez au Beaux-Arts de privilégier ce médium-là ? On vous a compris tout de suite ?
Moi, quand j'ai fait les Beaux-Arts, je suis sorti en 2000-2001. Et quand j'ai fait les Beaux-Arts, on était encore dans une situation où les pratiques traditionnelles et le rapport à la figuration étaient assez
mal vu,
quoi.
Ah oui, je sais. La peinture était finie, voilà, l'esthétique relationnelle, voilà. C'était parfait. Il fallait organiser des repas.
Tout ça. Ouais, ouais. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, ça m'a pas empêché de travailler. Et puis voilà, quoi.
C'était compliqué à quel titre ? C'est-à-dire qu'on vous disait parfaitement que ce que vous étiez en train de faire, c'était ringard et que ça ne correspondait pas à l'esthétique du moment. On vous disait ça aussi frontalement.
Oui, mais je pense que c'est normal. Il y a des et je pense qu'en plus c'est plutôt bon signe quand on est quand on est jeune et qu'on a envie de trouver une voie qui nous soit propre, etc. On a plutôt tendance à faire quelque chose qui n'est pas reconnu, quoi. Et c'est aussi une façon de trouver un espace de liberté. Donc moi, la rencontre avec le dessin s'est faite aussi pour ça, parce que
pour ne pas faire comme les autres.
Hein. Non, parce que j'étais plus tranquille. On me foutait la paix parce que je dessinais et que voilà, quoi, c'est une espèce de dingue qui dessine et c'est très bien comme ça, quoi. Et bon, voilà. Donc,
vos premiers dessins racontaient quoi ? C'était sur quoi ? Quels étaient les motifs ?
C'était
figuratif tout le temps.
Oui, c'était les autoportraits. Parce que j'ai voulu commencer, c'était un truc extrêmement naïf, je voulais faire entrer le monde entier dans les dessins, et donc j'ai commencé par me dessiner et dessiner ce qu'il y a autour de moi, essayer de le faire rentrer dans le format du papier, quoi. Et vraiment, littéralement, quoi, détail par détail, l'un après l'autre, jusqu'à couvrir toute la feuille du papier. Et j'avais l'impression que là, il y avait les questions de la représentation, et en même temps, je posais la question de la... une espèce de rapport à une totalité, enfin quelque chose qui pouvait tout résoudre, enfin je sais pas, il y a un truc.
Et à quel moment vous êtes passé à une surface beaucoup plus ample, jusqu'à faire, vous venez d'en parler, 700 mètres carrés de dessin pour la Maison Rouge, ou aujourd'hui des dessins de plus de 2 mètres pour des portraits.
Les premières tentatives de ça, c'était en 2009-2010. Il y avait l'exposition Qui es-tu Peter à l'espace Louis Vuitton en 2010, qui était la première occasion publique de faire vraiment un dessin dans tout le corridor. Mais assez vite, pour moi, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis rendu compte que c'était une question de limite, quoi. Comment est-ce qu'on pose des problèmes de limite ? Et du coup, logiquement, ça veut dire aussi les excéder, quoi. Donc sortir du format, sortir du papier, Donc il y avait ça, et c'était aussi parce que il y avait une nécessité d'envie de physicalité. Et c'est-à-dire pas simplement regarder les choses, mais les éprouver, enfin les faire éprouver, quoi. Et le fait de sortir comme ça dans l'espace, d'exposition, enfin d'agrandir les propositions à tout l'espace de déambulation pour le spectateur, c'était une façon de rendre possible cette épreuve du dessin et pas simplement une espèce de visite d'une exposition, quoi.
Vous comprenez cela, j'imagine,
ouais, c'est des gens. Depuis que je l'entends parler tout à l'heure, je trouve qu'il y a vraiment des correspondances assez incroyables avec cette idée que, par exemple, on prend le personnage et tout doucement, on rajoute des choses, et jusqu'à essayer de comprendre qu'on
de saturer la page.
J'ai toujours remarqué, moi, que j'étais beaucoup plus... je comprenais beaucoup plus de choses sur mon travail à venir, ou même présent, en écoutant des peintres ou des cinéastes, qu'en écoutant des écrivains. J'ai l'impression que les écrivains ne m'apprenaient pas grand-chose. Et là, quand j'entends des choses comme ça, oui, pour moi, ça se traduit sur une feuille de papier, comment on s'y prend.
Ça veut dire, Jérôme Zander, que le dessin, vous l'avez découvert aux Beaux-Arts, mais pas avant ?
Ah non, ça remonte à longtemps. Il y avait des livres de Ingres, les dessins qui me fascinaient, et puis Durer. Donc c'était, je devais avoir 10, entre 10 et 13 ans, ouais.
Mais vous saviez que ce serait le dessin au niveau des Beaux-Arts et pas une carrière d'illustrateur ou même la bande dessinée ?
Ça, c'était un peu plus tard, parce que moi, j'ai fait un parcours un peu bac technologique, je ne sais pas si ça existe encore, en art appliqué. Et en fait, on est allé en Italie et j'ai vu, il y avait deux choses. Il y avait la Sixtine, ça, j'avais 17 ans, et aussi l'éloge du Vatican, où il y a tout un truc très cinématographique de Raphaël, quoi. Je me suis dit,
ça sera pour moi.
Ça m'intéresse. Il y a une espèce de, encore une fois, cette espèce de puissance physique, quoi, de donner corps à un récit, et puis, tout ce que ça permet, du coup, à la fois dans la représentation et de la possibilité de réfléchir, quoi,
Vous n'avez pas été à un moment attiré par les romans graphiques, ces choses-là ?
Alors, vachement plus tard, parce que j'ai découvert la BD assez tard, vers 18-20 ans. Là, j'ai mangé toute la bande dessinée, et c'est rentré dans le dessin, aux Beaux-Arts. Mais comme une espèce de grand vocabulaire de possibilités graphiques différentes. Tous les mélanges que j'ai rencontrés dans les mangas chez les Japonais, tous ces jeux d'écriture. Mais c'est venu après, en fait.
Alors, quand on voit votre projet, on se dit que vous voulez absolument tout dessiner. C'est pas qu'une question d'espace, c'est presque une question encyclopédique. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas dessinées, vous ? Jérôme Zander.
Moi, je peux poser pour vous, si vous voulez. Je sais tout à l'heure m'expliquer que c'était compliqué d'avoir des gens.
Faut qu'on se connaisse. Non, mais tout dessiner... Mais là, je rejoindrai ce que...
Non, mais cette ambition-là, oui, on peut l'avoir, on sait qu'on n'y arrivera pas vraiment.
Ouais. Non, mais
il
y a un truc de totalité, de chercher à faire un système comme ça pour faire entrer les choses. Mais ça me faisait penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rapport au minimal. Avec le temps, la question, ça devient plus d'être de plus en plus précis et dans la fabrication de la forme et pas forcément dans le caractère exhaustif de ce qu'on fait entrer, en fait. Donc c'est à partir de 3-4 trucs très simples et qui vont se répéter tout le temps maintenant, qui sont pratiquement toujours les mêmes choses. Mais c'est comment est-ce que je les écris et puis je les travaille pour que ce soit de plus en plus précis, en fait.
C'est parfait d'avoir fini sur ce deux mots d'écrire, qui aurait été le point qui vous réunit tous les deux ce soir. Vous avez même eu le mot de la fin. Jérôme Zander, donc l'exposition Portrait, c'est simple à retenir, à partir du 15 mai aux Beaux-Arts de Paris. Merci à tous les deux. Tout de suite, on se quitte avec The Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains. Encore de la météo pour vous. Happy When It Rains, signé The Jesus and Mary Chain, comeback en 1987 pour clore cette première partie du Énervé. On va se retrouver dans 15 minutes, ce sera après le journal, et on se retrouve avec ça.
Et comment ça peut être de l'humour si ce n'est pas rigolo ?
Comédie à la française, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Le rendez-vous est pris ? Alors à tout de suite.